Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 133e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 8h avec notre sélection de l'actu. Une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquine. Tous les vendredis, sauf vendredi dernier.
J'allais le dire, on n'était pas là la semaine dernière. Emploi du temps un peu chargé.
Et le pont, on savait.
Pont, oui,
on savait, les gars, que vous alliez pas être complètement opés pour écouter un podcast à 8h du mat. Ne nous mentez pas.
Alors du coup, on a un gros sommaire cette semaine pour compenser et on va commencer tout de suite avec le gaming et des news du côté de Doom Eternal qui a sorti son petit patch.
Même un gros patch, hein, parce qu'il y avait 2-3 crashs qui se baladaient, qui faisaient pas rire tout le monde. Et puis surtout, il y avait notre ami, la protection des nouveaux qui faisait encore des siennes et qui, vraiment, il faut tuer ce truc. Alors les développeurs de des nouveaux voudraient garder leur boulot, donc ils disent non, maintenant ça va, vous allez voir, ça fait plus ramer les jeux et tout. Oui. Tout le monde n'est pas convaincu. Enfin, toujours est-il que Bethesda a décidé de virer ce truc. Donc, dans le patch qui vient de sortir, ils dégagent leur protection. Et c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en fouillant mes mails, il me reste une clé à faire gagner pour Doom Eternal, les gars. Bah ouais, parce qu'il y a eu un micmac. Bon, bref, j'ai une clé qui sert à rien, qui n'a pas été utilisée. Et du coup, je me suis dit, on ferait pas un truc qu'on fait jamais de la promotion avec un concours
sur Twitter.
Oh là là. Et en plus, quand on le dit en belge, c'est encore mieux.
Je fais exprès.
Donc, du coup, on s'est dit, on pourrait leur faire de la promo avec des trucs drôles et puis des dessins. Et puis après, on s'est rappelé que bon, vous aviez tous une vie et des trucs à faire quand même. Et puis que ça allait être un bordel sans nom à trier. Donc, on va faire un truc beaucoup plus simple pour gagner cette clé ou une autre clé. Oui, parce que vous allez voir, il y a une astuce à la fin. Il suffira de faire un petit RT et un like de la news qui annonce la sortie du podcast du compte Geekzone demain quand ça va sortir automatiquement à 8h, mais il n'y a pas de problème au niveau de votre timing là-dessus, puisque en fait nous allons choisir un gagnant d'ici à lundi. On va s'arrêter à lundi à midi parce que nous le midi on aime bien et puis on vous annoncera qui a gagné, toujours sur le compte Geekzone, de lundi soir. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut juste RT.
Bah oui, j'allais dire oui, c'est ça.
Non.
On sent les pros de la promotion quand
même. Non, parce que nous en fait déjà la promo ça nous saoule, mais par contre ça. On s'est dit faut qu'on trouve un truc un peu débile. Donc comme vous le savez, ce podcast est évidemment fait en direct, lol. Et donc vous allez devoir deviner la durée du podcast avant montage, en fait. Quelle est la vraie durée du podcast avant que notre ami Faskill fasse jouer les ciseaux numériques pour enlever tous nos merde, j'ai une connerie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc voilà, évidemment, le podcast original ne fait jamais la bonne taille, ne fait jamais le temps que vous avez dans votre petit lecteur de podcast.
Alors, je tempère quand même parce que, en fait, il faut pas oublier qu'une fois que le podcast est monté, on rajoute aussi un générique, des pubs à la fin, parfois des extraits musicaux, il y en aura dans cet épisode, donc peut-être que ce sera plus court, en fait, ça ne sera pas forcément plus long. Donc,
oh,
faites attention, t'as vu un peu?
Voilà, non, mais tu vois,
il y a
finalement,
du challenge.
On devrait faire ça tout le temps. Et donc, comme vous êtes certainement déjà très nombreux à voir Doom Eternal, nous avons aussi une clé en rap pour un jeu qui s'appelle Atomic Crop, dont je vais, le hasard est incroyable, parler dès maintenant.
Vas-y.
Tu n'as même pas besoin de faire la transition. T'as vu ça un peu?
C'est trop beau.
C'est l'épisode 133. Non, mais on commence à avoir un peu de métier. Donc, Atomic Crop. Ah là 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 là. Alors, Atomic Crop, c'est un petit jeu, j'en attendais un petit peu des choses, hein, parce que ça fait un moment qu'il est en early access et on se disait bon, ils vont corriger ce truc là, ils vont corriger ça aussi et puis un jour ça sera bien. Non. C'est compliqué. Alors en fait, je vous ai linké le test de l'excellente Luma qui l'a un petit peu étrié sur Gamekult hier. Et donc, si vous écoutez ce podcast vendredi, hein, le test est sorti jeudi. C'est parce que elle a un petit peu le même problème que moi. Hein. C'était un truc qu'on se disait bon pourquoi pas. Parce que Atomic Crop, c'est le problème des jeux qui veulent mélanger plein de gameplay en même temps. T'arrives pas vraiment à faire la synthèse du tout. Et en plus, ils sont ratés sur un truc assez critique, c'est le design du jeu. Alors, je vais être gentil, c'est que c'est un jeu en pixel art et le pixel art ça peut être super. Moi j'aime bien le pixel art quand c'est très bien fait, ça peut vraiment être magnifique. Là c'est assez inégal et en fait ça nuit à la lisibilité du jeu. Donc Atomic Crops, qu'est-ce que c'est déjà, hein? Bon, crops c'est les récoltes, on va dire vite fait en français, et Atomy, bon, il se passe des trucs, il y a des radiations, il y a des lapins complètement tarés, il y a des bestioles que tu veux pas avoir dans ton champ dans le jeu, et ton boulot c'est en fait de d'un côté réussir à faire ton petit champ de culture avec des plantes qui sont rigolotes, hein, et elles s'expriment quand elles sont contentes et s'expriment quand elles sont pas contentes aussi d'ailleurs, et les protéger en même temps de tout ce qui veut la buter. Donc dans la journée ça c'est relativement simple, et quand la nuit arrive t'as plusieurs vagues de monstres qui arrivent et le jeu se transforme en tower defense. Donc t'as une phase vraiment construction où il faut gérer 2-3 trucs, défendre quand même, parce que t'as, même dans la journée t'as des trucs ennuyeux, et de l'autre côté tu dois défendre tous les soirs plusieurs vagues d'ennemis, et tu dois le lendemain aller vendre. En fait t'as pas le choix, il y a un hélico qui arrive le matin qui t'emmène, parce que c'est le luxe, hein, c'est la ferme de luxe avec hélico voyage qui vient te chercher pour t'emmener à la ville pour que tu puisses vendre les trucs que tu as récolté la journée et acheter de quoi upgrader ton perso, ta ferme, etc. Donc t'as un côté roguelike, t'as un côté tower defense, et le finish est surtout un shoot twin stick en fait. Tu bouges, d'accord, le perso avec un des sticks et tu tires avec.
Oui, ça ratisse large donc.
Ça ratisse super large, et globalement il y a aucune des fonctionnalités qui est parfaite. Alors surtout c'est extrêmement rythmé. Alors c'est fait exprès, hein. Ils veulent que tu n'aies pas une seconde pour souffler. Il faut que tu calcules à quel moment tu vas d'ailleurs pouvoir gérer 2-3 choses que tu veux terminer, car par exemple l'hélico du matin n'est pas esquivable, il arrive, il t'emmène, point. Donc si tu veux aller ramasser un dernier truc avant de te barrer, c'est mort, hein. Faut penser à le faire avant, donc faut surveiller le petit soleil qui est dans un coin de l'interface. Donc moi personnellement j'ai trouvé l'idée depuis le départ intéressante. Il y a plein de choses sur lesquelles ils avaient bossé. On a vu des designs potentiels qui étaient passés pendant le early access, qui était assez intéressant, et le résultat final est un petit peu décevant. Maintenant c'est pas un jeu qui est très cher, c'est dispo sur toutes les plateformes y compris la Switch, donc évidemment on se dit que ça va être une plateforme un petit peu plus sympa pour le jeu, mais j'en suis pas si sûr, parce que même la Switch déborde sous l'offre maintenant, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis bah voilà, on est quand même mi-2020, et ce jeu qui est en early access depuis septembre 2019 ne tient pas toutes ses promesses. L'early access c'est pas du win à chaque fois, les gars, c'est un petit peu triste. Je voudrais pas spoiler, mais il a pris donc 5 sur 10 sur Gamekult. Ça aurait pu être mieux. Mais donc, si vous êtes curieux, nous avons toujours cette clé disponible. Et vous verrez, vous pourrez juger par vous-même. Voilà.
Allez, on passe à la suite avec Crucible.
Ah là là, mais c'est la semaine des trucs qu'on attendait pas vraiment, et on va continuer de faire sans. Non, Crucible, c'est pas très gentil. C'est un titre qui a été pas hypé tant que ça par Amazon, qui nous vient du studio Relentless, donc qui appartient à Amazon Game Studios, des gens qui ont un petit peu d'argent. C'est sorti le 20 mai et ça se veut un game as a service multijoueur qui veut aller marcher sur les plates-bandes de nos amis Fortnite, Apex et compagnie. Et ils vont pas marcher sur grand-chose, hein. J'en ai bien peur. Alors déjà, je pense que très honnêtement, le jeu est sorti beaucoup trop tôt, d'un point de vue purement technique. Il y a eu 8 updates depuis le 20 mai, pour vous donner une idée.
Alors,
c'est pas des grosses updates à chaque fois, mais c'est des trucs hyper nécessaires. Il y a plein de gens qui arrivaient pas du tout à jouer au moment où le jeu est sorti, le matchmaking déconnait, etc. Donc ça va mieux. On suis sûr que le jeu est sorti trop tôt aussi d'un point de vue gameplay, parce que les mecs voulaient profiter du lockdown, tout bêtement, en se disant les gens n'ont pas le choix, ils doivent jouer aux jeux vidéo. Oui, mais on en a 12 millions pour choisir, donc on n'est pas obligé de jouer à Crucible, les mecs, je suis désolé de vous le dire. Le résultat est un petit peu bizarre. Donc c'est PVPVE qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire que tu te bats contre une équipe, mais tu as des objectifs sur la carte et des monstres sur la carte à buter également. Et le but est assez simple, tu as des espèces de grosses plantes à buter, et il faut aller récupérer le cœur de la plante, donc buter le monstre et récupérer le truc au milieu, ce qui nécessite un petit timer, un peu comme quand on désamorce une bombe par exemple, tu vois, au hasard. Et là tu récupères ce cœur, il en faut 3, l'équipe qui gagne 3 trucs a gagné, c'est super. Oh là là, qu'est-ce que c'est original. Le tout dans une ambiance science-fiction avec un scénario tellement osef que je vais pas vous en parler, parce que vraiment ça n'a aucun impact sur le jeu lui-même. Des personnages à classe, bah voilà, des choses qu'on a déjà vues. Chacun a ses pouvoirs. Il y a un petit kit personnalisé avec des persos un peu personnalisés, comme dans Apex, au hasard aussi. C'est bizarre ces idées là qui passent d'un jeu à l'autre. Ouh là là. Et du coup, je suis un petit peu ennuyé parce qu'en fait, techniquement, le jeu, bon, une fois qu'il est patché, n'est pas mauvais, mais on s'ennuie. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie?
C'est pas idéal, ça.
Mais oui, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de... En fait, déjà, la carte est assez grande. Donc, du coup, des fois, t'as des mecs de tête de ton équipe qui sont à perpète sur la carte et qui n'aident pas du tout en termes de teamplay. Donc, c'est une catastrophe. La personne qui est toute seule va peut-être s'ennuyer jusqu'à tomber sur une ou deux personnes ou voir toute une équipe en face qui va l'éclater et qui, du coup, va se dire bah, « Ça fait 2 ans que je cavale tout seul dans cette carte pour... » Pourquoi? Pourquoi tant de haine? On n'a pas vraiment de gros feeling sur les fights. Les combats sont pas ultra péchus. On est très très loin des derniers Call of Duty, de Apex évidemment, qui est mon chouchou, mais ça va se voir. Alors je vais essayer d'arrêter de le citer. c'est mou, tu vois. C'est mou, c'est de la barre de vie qui disparaît. Il y a pas vraiment d'intensité. Alors il y a des bonnes idées, il y a des pouvoirs intéressants, il y a 2-3 trucs qui sont vraiment réussis, mais je pense qu'ils vont avoir un petit problème pour s'imposer. Et tous ces jeux PVPVE en fait arrivent très rarement à gérer l'intensité du côté versus environnement justement, et le côté PVP du coup on souffre aussi parce que bah finalement tu cherches à buter les mecs, une fois qu'ils sont tous morts tu vas choper l'objectif et puis tu rinse and repeat comme disent les Américains, donc tu recommences à chaque fois. Si t'as une équipe un peu organisée, tu roules sur la carte et puis bah fin de l'histoire, tu vois. Donc la carte en plus elle est ouverte, il y a pas vraiment de défi d'endroit pour vraiment te planquer, de stratégie en tout cas qui nous aurait sauté aux yeux pendant cette première semaine de gaming. Et je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont déjà désinstallé le jeu. Donc du coup, je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer ça. Et s'ils rajoutent des choses, et ben, ça va être un travail de longue haleine pour essayer de motiver les gens pour revenir et réinstaller ce truc-là.
Allez, on reste dans les jeux que tu surkiffes avec la sortie officielle de Valorant. Hein.
Ouais, mais là, c'est moi. Tu sais, c'est pas toi, c'est moi.
C'est pas toi, c'est moi.
Cette grande phrase... c'est Valorant donc Riot sort la version officielle, on sort de bêta etc. le 2 juin. La mauvaise nouvelle c'est que ceux qui sont complètement accros ne pourront pas jouer entre la fermeture des serveurs qui a déjà eu lieu cette semaine et l'ouverture le 2 juin si j'ai bien compris, mais comme je n'ai plus le jeu sur mon disque dur actuellement, je ne peux pas vous confirmer cette chose. Mais en revanche le 2 juin ça ne fait aucun doute, mon avis on s'en fout complètement, je pense que ça va cartonner. Il y a énormément de gens qui sont déjà ultra fans, il y a plein d'équipes qui se sont montés, l'aspect e-sport est effectivement déjà sur les rails parce que Riot, faut pas déconner. Et puis bon bah l'e-sport, comme j'expliquais, je répondais à un jeune qui fait un petit mémoire sur l'e-sport et le jeu vidéo plus globalement, qui me demandait des choses intéressantes et justement ça m'a forcé à me rappeler que bah l'e-sport pour une boîte comme Riot, c'est quand même un outil marketing hallucinant et que ça va permettre de propulser Valorant sur le devant de la scène quoi qu'il arrive. Surtout le jeu est bon, hein. Faut aimer le style, c'est juste ça, c'est un style très très particulier dans le FPS, c'est pas mon style favori, donc du coup bah écoutez, de toute façon c'est gratuit, vous l'installez, vous testez, vous voyez si vous êtes frustré ou content, ici avec vos potes vous vous éclatez. Si vous allez jouer tout seul ça risque d'être compliqué, mais bon on a survécu, il y a plein de joueurs qui ont survécu en solo sur Counter-Strike pendant des décennies. Je ne vois pas pourquoi ça changerait avec Valorant.
Et on enchaîne avec des bonnes nouvelles pour ceux qui n'arrivent pas à finir leur jeu, leur liste de jeux, parce que ça va pas s'arranger.
Non mais il y en a marre des backlogs, des jeux gratuits et tout. Enfin, le backlog est un problème, mais avec tous les trucs gratos qu'on récupère tout le temps en ce moment, je vois bien que vous voulez pas qu'on travaille et que vous voulez la fin de la société. C'est évident maintenant. Donc, je vous rappelle l'existence des petits cadeaux bonus de Twitch Prime. Si vous allez sur Twitch, vous avez des trucs régulièrement avec des skins, des machins, des bidules. Mais quand vous allez sur la page Twitch Prime elle-même, que je vous ai linké dans le billet qui accompagne ce podcast, quand vous scrollez tout en bas régulièrement, subrepticement, j'ai presque envie de dire, Twitch vous glisse quelques jeux gratuits, vous cliquez sur claim et hop, vous les avez, enfin vous récupérez, je sais plus comment c'est en français, vous les avez dans votre bibliothèque Twitch qui vous oblige, je sais, je suis désolé, à installer leur fabuleux fabuleusement nul. Soft Twitch Desktop installé sur votre ordinateur sous Windows qui vous permet d'une part de regarder les streams évidemment, mais aussi de gérer des mods et d'aller dans votre bibliothèque de jeux pour récupérer tout ça. Donc c'est la fusion historiquement c'est la fusion d'un vieux Soft. Ils ont viré toute la partie qui venait concurrencer Discord et tout, donc c'est un petit peu moins lourd. Mais bon, ça reste le plus mauvais gestionnaire de jeux du marché, et pourtant il y a de la concurrence. Mais vraiment, eux, c'est vraiment pas. Enfin, si vous changez de bécane ou vous installez Windows, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand tout va bien, c'est pas très grave, mais là, c'est vraiment assez moche. Et pourquoi j'en parle ? Il n'y a pas de grand jeu sur ce batch du mois, enfin du mois, du moment. C'est qu'il y a une grosse pelletée de jeux SNK, et je sais que ça fera plaisir à certains. Il y a King of Fighters 2002, Samurai Shodown 2, Blazing Star, Art of Fighting 2, etc. Donc, bah, de quoi faire plaisir aux nostalgiques. Pour la somme modique de 0€, notre somme préférée, donc allez-y.
Et puis des soldes aussi chez GOG pour si jamais on n'a pas assez avec les jeux gratuits et qu'on veut en acheter encore plus.
Non mais je te dis, hein, c'est la merde, c'est les soldes d'été, tout le monde fait des soldes en ce moment, oui, au cas où vous n'auriez pas compris, il y a des soldes
on
chez
est trop faible.
Tous les... Voilà, il y en a chez nos amis de chez Epic, il y en a partout. Et donc GOG ouvre, GOG ouvre les soldes d'été, 3000 promos, les plus grosses soldes qu'ils ont jamais fait. Et en plus, si ça suffisait pas, parce que vous avez encore du temps libre, ce qui est faux, hein, on sait que c'est faux, vous mentez, eh bien, ils ont en plus rajouté des démos de jeux qui sont en plus intéressantes. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, t'es obligé de faire des jeux que tu vas pas finir pour voir à quoi ça ressemble. Moi, ça me fait plaisir, hein, c'est le retour de la démo. On a fait les beaux jours de joystick avec ça, avec les CD dans les couvertures.
Oui, je me souviens.
Et bah écoutez, c'était un petit peu tombé en désuétude avec les free-to-play compagnie. Bah là, ils remettent le truc au goût du jour et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on a en démo hyper intéressante? Il y a Desperados 3 de Mimimi Games, je sais jamais combien il y a de Mimi, qui sont en fait les gens qui ont fait Shadow Tactics, qui est excellent, et le Desperados 3 semble assez prometteur. Je connais des journalistes spécialisés qui ont déjà passé beaucoup trop de temps sur les bêtas, donc c'est plutôt bon signe. Mais le truc qui va vraiment faire plaisir aux gens qui ont peut-être plus beaucoup de cheveux ou très grisonnant, c'est l'alpha de System Shock, le remake qui n'est pas mort, qui revient, qui bouge encore. Ça fait juste 20 ans qu'on attend. Hein, donc,
oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Tout va bien. Et donc, cet alpha est dispo. Alors, évidemment, il y a des disclaimers. Ah oui, alors peut-être ça va ramer sur votre machine, on sait pas trop. Bon, bah écoutez, c'est gratuit. Allez le choper. Et puis, au passage, essayez de vous cacher les yeux en regardant, parce qu'il y a des tarifs à genre moins 95%. Il y a des trucs débiles. Vous risquez de déraper et d'acheter des trucs en plus. Alors, vous n'avez pas fini déjà tous ceux que vous avez. On sait comment ça marche. Ça nous arrive régulièrement.
Allez, on passe du côté des apps avec Joplin.
Ah là là, Joplin. C'est la semaine des applications qui n'ont pas forcément des noms ultra évocateurs, voire pour certaines assez imprononçables en français. Mais Joplin, ça va. Ou Joplin, on peut le faire en français aussi. C'est un outil que j'ai testé cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, sur Geekzone, qui est un outil de prise de notes réellement multiplateforme. Il y en a plein sur le marché des outils de prise de notes, c'est pas ça qui manque, mais quand on veut un outil de prise de notes qui soit alors bah gratuit, c'est cool, mais c'est même pas le truc de base, mais qui fonctionne vraiment partout, c'est-à-dire Android, iOS, Windows, Linux, macOS, blablabla, bah tu te rends compte qu'en fait il reste pas beaucoup de monde au moment de faire ton choix, pour plein de raisons que j'explique d'ailleurs dans le papier. Une des raisons, c'est qu'il y a des applications fantastiques sur l'écosystème Apple qui sont vraiment vraiment ultra rapides, avec une synchro dès que tu ouvres l'appli, etc., mais qui repose en fait sur les moteurs de synchronisation mis à disposition par Apple dans les outils de développement. Et en plus, ils n'ont pas à payer l'hébergement, parce que c'est des trucs, voire en tout cas avec des tarifs extrêmement raisonnables. Mais évidemment, dès que tu veux faire la version Windows ou whatever de ton truc, bah, t'es coincé. C'est pour ça qu'on ne voit pas débarquer ou facilement débarquer des choses comme ne serait-ce que Beer sur d'autres plateformes, puisque même faire une version web, c'est compliqué pour eux, tu vois. Donc du coup, Joplin, c'est hyper intéressant parce que les mecs ont réglé le problème et ils ont fait des versions pour tout le monde, et en plus une version ultra nerdy en mode terminal. Alors ça, c'est la seule que j'ai vue à ce niveau-là, c'est assez rigolo. Pour les gens qui ont vraiment vraiment envie d'un truc ultra rose, vous pouvez aller rigoler avec ça. Et évidemment, l'idée de génie du truc, elle n'est pas une idée nouvelle, hein, mais qui est extrêmement bien implémentée là-dedans, c'est qu'en fait, ils utilisent d'autres services tiers pour la synchronisation de vos notes. Ça peut être Dropbox, ça peut être Nextcloud, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être du WebDAV en fait. Donc vous pouvez vous démerder avec votre propre serveur et faire votre vie. Et donc comme ça, tout est hébergé chez vous. Donc ça cumule cumule plusieurs points qui sont assez sensibles pour plusieurs catégories de personnes, c'est-à-dire la disponibilité sur tous les OS, le fait d'avoir quelque chose qui soit chiffré de bout en bout si vous le désirez, c'est pas obligatoire, et le fait d'héberger tout ça chez vous et que ça soit pas sur un service tiers comme la plupart des services de notes, parce que soit c'est dans leur business model, soit d'un point de vue développement, c'est quand même plus pratique pour eux. Donc je vous laisse lire le dossier complet sur Geekzone, donc c'est gratuit, et je voulais juste préciser que bon bah le seul point négatif de l'histoire, c'est que l'interface ne vend pas un rêve extraordinaire, mais c'est régulièrement le cas. En revanche, c'est pas mort, c'est de l'open source et il y a déjà des projets d'interface revisités qui existent de manière officielle et on peut déjà bidouiller pour avoir des interfaces bien plus jolies. Donc après, ça dépend de l'effort que vous voulez mettre pour avoir quelque chose qui vous fait plaisir quand vous l'ouvrez.
Allez, on continue dans les apps avec cette fois-ci donc une app avec un nom que je vais te laisser prononcer.
Non, pourquoi? Non, parce que ça se passera allez, pas comme ça.
C'est quoi? C'est allemand? C'est ça, donc Zettler.
Voilà.
Faut le lire avec aplomb.
Voilà. Et en fait, t'es plus prêt, tu vois. Donc, c'est normal que ça soit à toi de le dire. Alors, quand tu lis la fac du soft, on te dit que ça se prononce comme Zettler, en fait.
D'accord.
Alors, Zettler, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'écriture en Markdown. Et l'intérêt, c'est que c'est un vrai outil d'écriture en Markdown. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui a été prévu pour les codeurs, par exemple, au hasard. Comme ça arrive souvent sous Linux. En fait, tout bêtement, c'est un projet qui date de 2017, qui est open source, gratuit, encore une fois disponible sur toutes les plateformes, qui est fait par un Allemand qui s'appelle Hendrik Hers, qui fait quasiment tout en fait, hein, parce que c'est open source, mais il fait 95% du code, il fait le site web, la documentation, le forum, la chaîne YouTube, la totale. Hein. Et la blague, c'est que le mec n'est pas programmeur. Et moi, ça me, à chaque fois, les bras font boum, okay. Tu vois, ils tombent du coup. Comment t'as réussi à pondre ça sans être programmeur officiellement, tu vois? Parce que le mec, en fait, est sociologue et théoricien politique.
D'accord.
Ce qui n'a rien à voir, mais c'est aussi ce qu'il a motivé pour sortir ce logiciel puisqu'il en avait ras-le-bol de bosser sur des trucs qui n'étaient pas adaptés à ses recherches en fait et à ce qu'il voulait écrire et à ses trucs de thèse etc. Il s'est dit ça va pas du tout donc je veux mon propre soft et il l'a fait. Alors, le mec a 2-3 compétences, hein. C'est ce qu'on appelle du multiclassé. Le résultat est assez bluffant. Alors c'était pas le cas quand il est sorti mais c'est normal, hein. Voilà, le mec il a fait des progrès de ouf depuis 2017, c'est pour ça qu'on en parle aussi que maintenant parce que moi quand je l'avais testé à l'époque je l'avais rangé en me disant oui on reviendra plus tard et cette nouvelle version, il y a la 1.7 qui arrive bientôt mais cette version 1.6 est déjà réellement utilisable sans aucun problème quel que soit l'OS que vous utilisez, sauf il n'y a pas de version mobile, hein, soyons clairs, mais sur tous les OS desktop c'est dispo ou en tout cas bah, si vous êtes grand vous pouvez même le compiler sur votre truc, vous vous débrouillez hein, les gars, au bout d'un moment faut assumer. Et donc ça gère évidemment le Markdown, c'est le but du jeu. Le Markdown, je vous explique pas ce que c'est, ça va bien maintenant, faites un effort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a prévu plein de choses qui sont pas vraiment intégrées dans ce genre de soft d'habitude. Genre, il y a un timer Pomodoro directement dans le soft.
D'accord.
C'est tout con, mais c'est hyper pratique. Mmh. T'as un moteur de recherche ultra efficace avec les recherchés remplacés, etc. Mais aussi des expressions régulières. Parce qu'en fait, le but de ce soft, c'est vraiment de gérer des grosses masses de documents. Et encore une fois, comme pour Joplin, en fait, bah, vous avez pas de base de données ou truc chiant. C'est vous lui indiquez simplement le folder que vous voulez bah, gérer dans ce logiciel et lui va se démerder. Il va gérer tout ça comme un grand, c'est très bien pensé. Et il y a un truc, et ça, bon bah là maintenant c'est à moi de le dire, hein, donc tu t'en sors pas trop mal parce que finalement, c'est qu'en fait ça gère une méthode de travail qui s'appelle la méthode Zettelkasten.
Nice.
Tu vois, vous irez la lire sur le site web et vous foutrez de ma gueule, s'il vous plaît.
Je moi, salue l'effort.
J'ai fait espagnol en deuxième langue et pas longtemps, ok? J'ai pas fait allemand, laissez-moi tranquille. Donc, c'est une méthode qui est en fait une méthode de travail et d'archivage, pas d'archivage, mais de classification des grosses masses d'informations pour garder des liens relationnels, en fait, entre les différentes notes, idées qu'on prend.
D'accord.
C'est un truc qui est extrêmement à la mode actuellement. Vous allez voir plein de logiciels basés sur ce truc-là qui vont commencer à popper un peu partout. Pas forcément en donnant ce nom, puisque bon, au niveau marketing, on va pas se mentir, dans les pays latins, ça passe pas trop bien. Et le but du jeu, c'est vraiment de garder une arborescence complète de vos idées, de vos notes, et de pouvoir rebondir entre les différentes notes et idées que vous avez prises. Je vous conseille une petite vidéo que j'ai linkée dans le dossier que j'ai fait pour Geekzone, qui est bien plus explicite que ce que je pourrais vous faire dans un podcast. Le truc rigolo, c'est que une des grosses apps qui est en développement autour de cette idée de Link avec des graphiques visuels, etc. C'est un truc qui s'appelle Roam. Et en fait, le développeur de Roam est un des gros sponsors de Zettler. Zettler. Donc du coup, c'est assez marrant, mais c'est un petit milieu. Hein. Donc vous allez voir, il y a plein d'idées que vous aurez vues dans d'autres logiciels. Tout le monde se repompe un peu toutes les idées dans ce genre de business, ce qui est normal. Mais là, c'est gratuit. Le mec n'a pas du tout l'intention de faire un business autour de ça. Ça, c'est un petit peu la win, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bah, il est meilleur que plein de soft qui sont en plus pas open source, du style Typora, qui est un des seuls qui est dispo un peu partout, qui soit un peu joli. Mais bah, lui, il le concurrence de manière assez réussie. Donc, je vous laisse aller tester ça comme des grands.
Et puis moi, je voulais vous parler très très vite d'une petite extension pour navigateur qui s'appelle Consentomatic.
Ouais.
Et comme son nom le laisse supposer, donc c'est une extension qui vous permet donc de dire « je m'en fous des cookies ». Alors, il y avait déjà des extensions qui fonctionnaient sur ce principe-là et qui, en gros, vous masquaient les messages, donc les pop-ups qui apparaissent pour dire « attention, si vous allez sur ce site, vous acceptez nos conditions, blablabla ». Le problème de ces extensions jusqu'ici, c'est que en fait, elles acceptaient tout par défaut. Donc, c'était un petit peu contre-intuitif, contre-productif. Et l'idée ici, derrière Consentomatic, c'est justement de vous permettre de définir un profil. Donc voilà les informations, il y a 5 grandes catégories, on choisit les types d'informations qu'on accepte de communiquer, celles qu'on veut bloquer, et le soft va faire tout le travail derrière dès que vous allez arriver sur un site et qu'on va vous demander « est-ce que tu veux pas valider les cookies ?» Il va le faire pour vous, il va rien vous montrer, donc tout est assez transparent. Alors moi je le teste que depuis aujourd'hui, donc j'ai pas encore pour le moment rencontré de soucis avec. A priori ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je sais pas si toi t'avais un site sur lequel ça marchait pas tout à l'heure, c'est ça ?
Tout à l'heure il m'a laissé la bande de Polygon. Donc j'étais très triste, mais par contre il marche avec le site le plus relou de la terre, à savoir TechCrunch, enfin en tout cas dans mes news tech je vais voir, et j'ai pas mal de sites avec des conditions d'utilisation extrêmement pénibles, et pour l'instant il les a tous gérés absolument merveilleusement. C'est ma nouvelle extension préférée. J'espère que ça va durer.
Voilà, et puis en plus on peut rajouter des règles supplémentaires par la suite, hein, si jamais il y a des sites justement qui sont un petit peu qui résistent un peu, il y a a priori moyen de contourner tout ça. Bref, je vous linkerai dans le biais qui accompagne ce podcast la news que j'ai faite cette semaine sur cette extension. Et puis on reste dans les browsers avec Edge Chromium. Toi tu continues de tester aussi du coup?
Ouais, je l'ai installé sur mon Mac enfin, et du coup j'ai pu tester, parce que je l'ai installé sur mon Mac, parce que je pouvais enfin tester la synchronisation des extensions.
Ouais.
Car c'est un truc que je refuse, hein. Si un navigateur ne sait pas synchroniser les extensions, je n'y touche pas, parce que j'ai pas du tout envie de le configurer deux fois de suite. C'est insupportable, et j'utilise beaucoup trop de machines et de machines virtuelles pour m'amuser à ce genre de truc. Là je voulais vraiment le tester dans sa version Mac un peu avancée pour voir ce que ça donnait. Bah, je suis extrêmement surpris, ça marche plutôt bien. Alors évidemment, hein, ça reste un navigateur à base de Chrome, mais justement c'est aussi pour ça que j'en avais besoin, car je n'ai pas réinstallé Chrome sur ce Mac. Et du coup je voulais voir ce que ça donnait, et le truc qui m'a vraiment satisfait, merci Microsoft, c'est que la synchronisation des extensions reprend leur placement sur la barre la barre d'outils.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et ça, ça, merci. Parce que je crois que c'est le seul qui le fait proprement, avec Chrome d'ailleurs, je crois, très probablement. Mais en tout cas, c'est un truc foire lamentablement mon petit chouchou qui est Firefox. Et ça m'énerve à chaque fois. Donc là, ça synchronise correctement maintenant à peu près tous les trucs importants, c'est-à-dire vos settings, donc vos paramètres, vos extensions, les mots de passe, etc. Mais il manque encore un truc, c'est l'accès aux tabs ouverts sur les autres machines. C'est la synchronisation donc des tabs, genre vous avez des tabs ouverts sur votre PC, vous passez sur un autre PC, une autre machine, la version mobile, et vous voulez vous relire un papier que vous aviez ouvert mais pas bookmarké ou quoi que ce soit, et ben vous avez toujours pas accès à ce truc là c'est leur dernier on va dire manque, mais voilà, c'est prévu, ça arrive, et je trouve que la bête fonctionne vraiment bien. Alors après, j'ai lu des gros tests qui vont assez en profondeur sur la gestion de la vie privée, etc., chez les gens de Next Impact. Bon, je vais pas me lancer dans ce genre de débat pour l'instant. En tout cas, on peut que féliciter l'équipe de Microsoft pour le boulot qui a été abattu, parce que bah, le Edge classique, je crois pas qu'il y ait grand monde qui aimait l'utiliser ou qui l'utilisait tout court. Et puis bah, là, on se retrouve à l'installer sur des systèmes d'exploitation qui ne sont pas Windows. C'est plutôt une bonne nouvelle, et ça fait un excellent navigateur en complément d'un Firefox, par exemple, qui pour moi reste mon préféré, parce que bah, la gestion des polices est toujours plus joli sous Firefox, je suis désolé.
Ah ouais, c'est clair.
Ouvrez ne serait-ce que Geekzone et mettez-le côte à côte entre les deux versions. Vous allez voir que les polices telles que nous, on les a pensées, designées, etc., sont plus jolies dans Firefox. Il y a plus d'épaisseur, etc. C'est toujours trop fin dans les versions, dans les browsers à base de Chromium. Et ça fait des années que ça dure. Ils sont au courant. Je crois que... Ah oui, ils s'en foutent, en fait.
Allez, on passe du côté de la culture. Je voulais à la base vous parler de la saison 2 d'Homecoming, mais comme c'est de la merde, on ne va pas le faire.
Voilà,
donc voilà, c'est ça, c'est fait. et on va faire une rubrique culture 100% musicale, avec deux salles, deux ambiances, comme on dit. D'une part, je voulais vous parler d'un album que je trouve plutôt audacieux, qui est signé d'un monsieur qui s'appelle Eric Hall. Alors, Eric Hall, c'est pas un monsieur connu, c'est un musicien multi-instrumentiste américain qui joue à la fois du piano, de la guitare et de la batterie. Et en fait, il vient de sortir une réinterprétation d'un grand classique qui s'appelle Music for 18 Musicians, un classique de Steve Reich, qui est donc un monsieur qui a fait de la musique minimaliste fin des années 70. Et donc, bon, voilà, à la base, c'est une œuvre un peu conceptuelle. Il y a a priori besoin de 18 musiciens, même si Reich lui-même dit 18, c'est peut-être pas assez, parce qu'en fait, c'est vraiment assez complexe comme mise en place musicale. Et c'est vraiment pas du tout une pièce qui est destinée à être jouée en solo. Et c'est ce qu'a fait ici Eric Hall sur sa réinterprétation, avec beaucoup d'instruments électroniques et puis des instruments acoustiques aussi. C'est assez difficile à décrire. Je vais vous passer un petit extrait pour que vous écoutiez un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment un album qui s'écoute du début jusqu'à la fin. C'est une espèce de long trip minimaliste, forcément, puisque c'est dans ce genre-là que ça puise. Et c'est vraiment un truc, c'est idéal pour bosser, par exemple. Tu fais en fond, tu vas chier du texte, tu vas voir. et puis sinon, okay. tu peux mettre ça aussi pour te détendre, faire un petit peu de méditation. Donc voilà, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de la plage qui s'appelle Section 3A, parce que évidemment c'est numéroté, hein, c'est minimaliste aussi au niveau des titres.
Oh mon dieu, j'ai l'impression que tu es parti bien loin, mon ami Faskil.
Non, tu verras, tu écouteras, c'est vraiment très très bien. Et puis j'aurai une autre recommandation, peut-être plus proche de tes goûts, juste après. Section 3A, donc tirée de la réinterprétation de Music for 18 Musicians par Eric Hall. Et puis, deux salles de ambiance. Donc, comme je disais, on passe donc de la musique minimale des années 70 à la house et à la soul plutôt contemporaine, avec le nouvel album d'un monstre sacré. Je ne sais pas si tu connais Moody Man.
Pas du tout. Il n'est pas du tout dans ma case monstre sacré, du coup.
Je vais te faire découvrir. Alors, hein, c'est un alias donc de Kenneth Dixon Jr. C'est un monsieur qui est basé à Détroit. Donc, Détroit, c'est un des berceaux de la techno. Et c'est un monsieur qui est en activité depuis le milieu des années 90. Il a sorti un paquet de maxi et quelques albums. Et il produit un genre de musique qui est bien à lui. En fait, c'est un mélange de samples soul, funk, avec du spoken word, avec des rythmiques on oscille entre de la house, trip-hop, funk, soul, parfois même du jazz, enfin c'est vraiment très varié. Si vous connaissiez pas du tout, je vous recommande d'aller écouter, que ce soit sur Spotify s'il y est, ou sinon sur YouTube, son morceau America, avec un K. C'est un morceau dans l'air du temps, sur lequel il mélange déjà des boucles soul, la voix de Jill Scott Aaron, c'est une tuerie. Mais bref, tout ça pour vous dire donc que l'ami Moody Man vient de sortir un nouvel album, c'est son 13e si je compte bien, et c'est encore une fois un petit bijou. On va écouter un petit extrait, la plage d'ouverture qui s'appelle Do Wrong. Yeah. 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 Oh, thank you, Jesus. The old country church. Sitting by the railroad track. Wait a minute. Do wrong. Wait a minute.
shower, do something, give me a little respect. Hell, every time I want to spend some time with you, you tired. But when your friends call, you off. Just like them lights and gas used to be when I met your ass. You know you got me back in church, baby.
Voilà, Do Wrong, donc tiré du nouvel album de Kenneth Dixon Jr. alias Moody Man, et l'album s'appelle Taken Away. On passe du côté de la tech, non, on reste dans la culture, pardon. Enfin, culture gaming, ouais. C'est un peu tout mélangé.
Voilà, j'étais à deux doigts de faire, tiens, je rajoute un truc à l'arrache, on n'est plus à ça après cette semaine. Mais je me suis dit, pour toi, histoire de marquer mon territoire, tu vois, un K-pop, un gros truc de K-rap. Oh. Et en fait, tu vois, si vous êtes un peu ouvert d'esprit, allez voir, il y a un truc qui s'appelle, parce qu'en plus, ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça quand il fait des albums solo, mais t'as un truc qui s'appelle Agus D. Si vous voulez briller auprès de vos enfants, s'ils sont fans de K-pop, vous leur dites que vous avez écouté le nouvel album de Auguste D, D2. Alors, c'est Auguste D, c'est imprononçable en français, mon cerveau ne veut pas. et en fait, c'est un membre d'un groupe qui cartonne un tout petit peu actuellement, qui s'appelle BTS, qui est le gros groupe de K-pop de la planète. Et donc, le mec fait des mixtapes. Alors, moi, ça me fait délirer. Alors, je sais pas si ça existe ailleurs, en fait. Ah oui. C'est des mixtapes qui sont dispo partout. Donc, sur tous les services de streaming. Mm-hmm. Mais du coup, je ne comprends pas comment ça marche au niveau de la thune, tout bêtement. Puisque, en fait, c'est des trucs qui sont pas du tout confidentiels. Le mec, il est déjà à genre 14 millions, 15 millions de vues sur YouTube. Mm-hmm. Et en fait, tu peux télécharger l'album. C'est-à-dire que t'as des plateformes, c'est dispo sur SoundCloud, tu peux aller le récupérer, l'échanger, etc. Il est gratos, en fait. Et il est évidemment dispo pour le confort de tous sur toutes les plateformes. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il gagne de l'argent, en fait, sur les trucs, sur les plateformes? C'est assez chelou. Mais le concept me fait vriller dans la mesure où le mec va cartonner plus avec cette mixtape que plein d'albums de rap cette année. Ce qui est assez rigolo. Mais ça n'avait rien à voir avec quelque chose que je voulais annoncer derrière ton Moody Man. Je voulais juste vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Game Maker's Toolkit qui est une chaîne extrêmement intéressante. Et en fait, je n'ai regardé que deux vidéos, donc ça se trouve, le reste est tout pourri et vous pourrez m'insulter sur le forum, mais je pense qu'il y a peu de risques. En fait, le mec fait des décortiquages de gameplay et de conception de jeu et c'est ultra chiadé. La réalisation des vidéos est assez hallucinante, c'est ultra propre. La musique de fond est nickel, les inserts vidéo sont ultra propres. Je sais même pas comment il fait ses captures, où il va chercher ses images. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et surtout, bah, le fond, évidemment, c'est ce qui est le plus important, est très intéressant. Donc là, moi, je vous ai linké un truc où il décortique une petite nouveauté qui s'appelle Space Invaders, qui est vraiment ultra intéressante. Bon, c'est là où on apprend que le fait que les bestioles aillent de plus en plus vite vers la fin, bah, c'était un bug au départ, et qui a été gardé, évidemment. C'est un des premiers « It's not a bug, it's a feature ». C'est assez marrant l'explication du truc. Je suis dans le jeu vidéo depuis 45 000 d'années, mais je ne connaissais pas cette anecdote, donc ça me fait marrer. Et il a une autre vidéo que j'adore sur Pac-Man qui vous explique par exemple comment fonctionnent les fantômes et pourquoi ces abrutis sont toujours là à vous faire chier, comment c'est géré pour qu'on ait cette impression d'intelligence artificielle alors que c'est un algorithme à deux balles mais qui est extrêmement bien pensé. Donc voilà, allez regarder ça si vous aimez bien les jeux vidéo et ce qui se cache derrière leur conception, puisque en plus là c'est vraiment très bien fait. C'est le genre de contenu que j'adore trouver sur YouTube, surtout par hasard.
Allez, on passe du côté de la tech avec des news du côté du Raspberry Pi 4.
Qui n'en finit plus de faire des bébés.
Alors le premier n'était pas terrible, si j'ai bien compris.
Voilà, alors il a eu des petits problèmes, des petits ratages au démarrage, le Raspberry Pi 4. On ne l'attendait pas aussitôt, il faut le dire. Ça chauffe toujours un petit peu, hein, faut pas se mentir. Cette version va continuer de chauffer, mais surtout, cette version débarque avec 8 gigas de RAM. Donc on se retrouve avec une toute petite carte qui sait faire vraiment définitivement beaucoup de choses. Et avec cette version avec 8 gigas de RAM, on va pouvoir encore faire plus de choses. Alors évidemment, c'est un peu plus cher. Hein. Je vous rappelle que les prix d'habitude, c'est entre 40 et 50 balles en fonction des versions. Là, on est à 85€, enfin 84, je crois.
Ouais, ça va encore. Hein.
Mais ça reste que dalle hein, par rapport au truc. Si en plus les gens ont besoin de ces 8 gigas pour bosser, c'est très bien. Mais les trois quarts des applications, vous pouvez les faire avec l'ancienne version, il n'y a pas de souci. Tout le reste est inchangé. Hein. On reste avec un ARM Cortex A72, 4 cœurs à 1,5 GHz. La puce graphique, c'est la même, c'est un VideoCore 6. Donc on n'a pas de changement de perf pur sur cette version. En revanche, chercher l'assurance d'avoir la dernière version de la carte mère. C'est ce qu'on disait. Donc la première version est sortie, il y avait 2-3 petites conneries, dont une espèce de box sur le port USB-C qui obligeait à utiliser certains types de câbles. Tout ça, c'est corrigé avec cette version. Et la vraie nouveauté, c'est qu'on peut enfin booter depuis un système qui est directement sur un disque dur, un SSD de préférence, sur le port USB 3.
Ah oui, on pouvait pas avant.
Bah non, avant, il fallait toujours avoir une SD card. Il fallait booter sur une micro SD card qui était donc obligatoire. Et le problème des micro SD cards, c'est que, bon, bah, elles ont pas non plus des capacités de lecture-écriture infinies. Mmh. En tout cas, bien moins que nos SSD. Et ça pouvait poser des problèmes pour certaines applications. Même moi, sur le test, quand je vous ai parlé de Pi-hole, pour bloquer toutes les publicités sur Geekzone, directement chez vous, je vous avais dit, il y a un petit script qui permet de charger le plus de choses possible en RAM pour éviter les écritures, par exemple, des fichiers log sur la carte et de flinguer la carte trop vite. Donc, ce genre de choses. Après, c'est attention, hein, quand je dis ça, il y a des gens qui ont des cartes qui tournent depuis 1000 ans et qui sont toujours là et qui vont toujours très bien. Mais c'est, en tout cas, sur le papier, des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut se prémunir de ça. Donc, voilà, il y a ce patch qui est sorti, qui est un peu chiant à mettre en place sur les anciennes, mais bon, ça se fait. Hein. Si on en a plein, en revanche, à bidouiller, ça peut être un peu relou. Mais bon, la communauté est là. Elle va tout trouver des petits scripts qui font ça les doigts dans le pif. Soyez patient. Et puis, au passage, il faut noter que Raspbian, donc l'OS officiel, fait la version Linux officielle de la Raspberry et de la fondation qui est autour, change de nom et Raspbian dégage et ça devient Raspberry Pi OS, tout bêtement. Et il prépare une version en 64 bits. Pourquoi ? Bah parce que quand tu sors un truc avec 8 gigas de RAM, il faut pouvoir gérer les 8 gigas de RAM. Or, je vous rappelle que l'ancienne version était 32 bits et donc ne savait pas gérer plus de 4 gigas. Donc, c'est un petit problème. Mais il y a déjà d'autres versions de Linux qui sont disponibles pour cette petite bestiole. Donc, si vous êtes pressé, ça peut se gérer. Et puis, la version 64 bits donc, est déjà disponible en bêta. Vous pouvez aller tester ça et tout casser tranquillement pendant le week-end.
Et c'est la fin de ce 133e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection d'actu. Et puis là, on va aller casser des Raspberry Pi, donc.
Non, moi, j'ai pas acheté. Tu sais, ça me sert pour mes émulateurs aussi. Et je n'utilise déjà pas assez celles que j'ai. Rapport au truc dont on parlait tout à l'heure, tu sais, le backlog. Mm-hmm. Voilà, j'ai refait ma base de données dans Notion, avec tous les jeux que je voulais faire. et je me suis rendu compte que c'était contre-productif.
Putain, parce
que
la procrastination, Max, ben ouais, quand
parce
même,
que,
là.
Ben, parce qu'en fait, tu fais ça et tu es content pour te dire ah maintenant je sais à quoi je vais jouer, mais pendant que tu fais ça tu ne joues pas
et tu ne bosses pas non plus,
et c'est ça. Mais non, mais c'est pas sur les heures de travail. Ne mélangeons pas tout, Faskil, enfin voyons. Oh là là,
pardon.
Bon, voilà, donc non, c'est une catastrophe. Le backlog, on ne s'en sort pas, c'est un problème quand on aime les jeux vidéo, ou enfin tout type de médias d'ailleurs, j'ai envie de dire.
Si vous avez des tips pour lutter contre le backlog, venez nous voir dans le forum ou bien sur Discord. Et puis sinon, n'oubliez pas l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, pour nous soutenir dans la production des podcasts, des news, des dossiers sur geekzone.fr. Et bien, la semaine prochaine, CAF. Bon week-end.
Et bien, bon week-end. Et n'oubliez pas de jouer pour gagner votre petite clé et nous faire rire sur le forum. Merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.